C'est le Super Daily. Super Daily. C'est le Super Daily.
Toute l'actu social média servie sur un podcast.
Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle des marques open source et pour m'accompagner, je suis avec monsieur Adjane Chélil. Salut Adjane.
Salut Thibaut. Et oui, une matinée bien chargée, bien remplie. On n'est pas tout seul là, c'est assez fou ce qui se passe autour de nous.
Mais n'en dis pas plus. Voilà, on teste des trucs ici dans le studio de Superlatif.
Est-ce qu'on peut dire rendez-vous en mars?
On prend des risques, je ne sais pas. Non, attendons d'être sûr. On teste des trucs. Voilà, on peut vous dire qu'en tout cas, il y a des lumières et des caméras.
Le mec, il va trop loin, quoi.
Allez, je disais ce matin, on parle de building in public. Hein. Sommes-nous entrés dans l'ère de la marque open source? Justine Hutto de Respire, qui nous raconte sur LinkedIn le lancement de sa marque de déodorant un an avant son lancement officiel, le slip français, qui nous explique comment il fixe la marge de ses produits. Marc de Horace, le fameux Marc de Horace, qui contacte directement certains clients pour leur demander comment ils peuvent concevoir ensemble le produit cosmétique parfait. Je pense que si Coca-Cola était lancé aujourd'hui, eh bien vous pourriez sans doute trouver sa formule secrète dans une highlight story sur Instagram. Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, c'est une vraie tendance dans la construction de marques et d'entreprises. C'est notamment aussi beaucoup le cas avec des entreprises de tech qui ont amené un peu cette vision avec beaucoup de co-construction avec ses clients, avec son audience. Et les réseaux sociaux, c'est aussi un socle pour cette nouvelle ambition dans la construction d'entreprises et de marques, avec une relation très particulière entre les audiences et les marques. On peut citer, on avait déjà parlé dans un épisode, l'épisode 516 du Super Daily, où on avait parlé des DNVB, Digital Native Vertical Brand, qui ont amené aussi cette vision-là en se construisant vraiment 100% en digital sur Internet au départ. Et en fait, en démarrant comme ça, beaucoup d'entre elles ont commencé à documenter leur construction, à communiquer dessus et à être en échange permanent avec leurs clients.
Il y a une lame de fond, une tendance énorme, c'est celle de la marque qui se construit en public. L'idée, elle est très simple finalement, c'est de communiquer et de faire participer son audience à la construction de son entreprise. En gros, en même temps que je construis, tout ce que je raconte, je documente ce que je construis et ça me fait un réservoir de création de contenu, un réservoir de contenu notamment évidemment sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, tu l'as dit, la trend, elle vient de la tech, sans doute des SaaS aussi, les software as a service, toutes ces boîtes qui proposent du service en ligne. Et puis parmi les pionniers de ce modèle d'entreprise, alors moi j'appelle ça entreprises open source, je sais pas comment il faut le dire, d'entreprises qui se sont construites avec leur public, construites en public. Eh bien, il y a Buffer, c'est une entreprise qui publie un outil de social media management, un peu comme Agora Pulse, que nous ici on connaît bien. Ouais. Buffer, c'est une entreprise qui a été assez pionnière là-dessus. Ils publient, je te donne quelques exemples quand même. Ils publient, transparence, ils publient les salaires de tous les employés de la boîte.
Wow.
Ouvertement. Les statistiques de diversité au cœur de leurs équipes et puis les feuilles de route de leurs produits. Ça a été parmi les premières boîtes à dire, voilà, notre produit, il n'est pas parfait. Notre produit, on va le construire ensemble. Voilà ce qu'on a prévu comme opti. Est-ce que vous, et qui maintenant est la base de tout software as a service, c'est donnez-nous des infos où est-ce que vous voulez qu'on mette notre énergie de construction et ce principe de roadmap, justement, le produit en constante évolution, etc. Bref, tout ça, ils en ont fait aussi un réservoir de narration, de story storytelling de la construction de leur marque. Allez jeter un coup d'œil d'ailleurs sur, je vous mets un lien en note de cet épisode, Buffer, Transparent Product Roadmap, où ils expliquent justement tout ce process et comment ça contribue à construire la marque, à construire le produit.
Ouais, je trouve que là, ce dont tu parles, c'est vraiment le cœur, c'est ultra intelligent, c'est faire preuve déjà de beaucoup d'humilité et le but, c'est simple, c'est générer une première communauté qui va être son noyau dur et en interaction continuelle avec cette communauté, on va créer et ajuster l'offre. Ça veut aussi dire qu'on se met dans une position, quand on est un chef d'entreprise ou une boîte, on se dit non, je ne sais pas tout, mon audience et mes clients, ils vont m'aider à ajuster mon offre et à faire en sorte que je puisse avoir vraiment une offre qui répond à une demande. Donc c'est ça le building in public, c'est vraiment construire son entreprise dès le départ avec un échange continuel avec son audience. Et on pourrait même parler, pour aller encore plus loin là-dedans, je trouve que le meilleur démarrage là-dedans, c'est les Kickstarter qui commencent vraiment avec des clients qui sont vraiment là dans la participation même financière de votre boîte.
Ouais, le crowdfunding, hein, ça c'est une évidence que tout ça, c'est la lame de fond, elle tient aussi à ce phénomène autour des crowdfunding. On a parlé digital native, crowdfunding, SaaS, bref, tout y est. Comment est-ce que, à quoi ça sert tout ça, hein? Construire sa marque déjà en public, eh ben, ça nécessite de faire vœu de transparence. Et là, c'est comme faire vœu de chasteté, hein, quasiment, hein, faire vœu de transparence. Attention, construire sa marque en public, ça n'est pas seulement balancer des photos et des vidéos de ses backstage. Ça c'est facile et ça c'est de la communication, hein. Quand je montre, tiens, je vous montre mon shooting pour des réseaux sociaux de ce que je vais faire au mois de mars, ouais, non, ça c'est pas construire en public. Là où ça devient intéressant, c'est quand on commence à toucher au marketing, quand on commence à toucher à l'offre, au produit. La construction en public, eh ben, ça nécessite une très grande transparence. C'est ce qui contribue peut-être aussi à renforcer la confiance que les audiences peuvent avoir dans une marque. C'est vachement intéressant, hein. Bien souvent on sait, il y a un blocage des dirigeants, il y a un blocage des entreprises, des marques, à dire, moi je préfère cacher mes pratiques, on va quand même pas donner la recette de la mayonnaise à la concurrence. Attention, faut pas tout montrer, ça c'est un truc qu'on entend fréquemment, mais quand tu caches un certain nombre d'éléments importants de ta marque, tu les caches aussi à tes consommateurs.
Ouais, il y a un juste milieu à trouver justement entre avoir cette recette magique et ne pas la montrer du tout. Faut arriver quand même à la montrer un petit peu à ses audiences. Et puis c'est là où on retrouve aussi plus d'authenticité quand on est une marque et qu'on arrive à ouvrir un peu plus les portes, à être plus transparent, à montrer l'arrière de la boutique. Dans un travail de co-construction justement avec ses audiences, c'est magique. Et puis ce travail de co-construction, parce que là tu parlais de la transparence en un, après on peut parler aussi de cette co-construction, ça donne un sentiment d'appartenance au public qui est folle. Et je pense que aujourd'hui quand on est une marque, le maximum qu'on peut obtenir de ses clients, c'est qu'ils aient l'impression d'appartenir à la marque. Comme quelqu'un qui achète une marque, bah pour lui ça représente quelque chose de particulier. Il se sent comme une marque de sable, tu vois, que tu porterais depuis que t'es jeune, et c'est la marque, c'est ta marque, tu reconnais les gens qui portent cette marque. Et bah là c'est pareil, quand tu participes à la co-construction d'une boîte, tu vas faire évoluer l'offre de cette entreprise, tu vas t'investir dedans, donner tes conseils, tes retours, et quand ces retours là ils s'appliquent, que l'offre elle est modifiée et que ça colle plus à ce que tu veux, bah forcément t'as l'impression d'appartenir encore plus à cette marque, tu vas jamais aller consommer ailleurs.
Ouais, donc il y a ce sujet construction, juste pour revenir sur le sujet de transparence, hein, qui est le préalable. Bon exemple à aller voir, alors je suis désolé, on en parle fréquemment, on n'a pas d'action chez eux, mais le slip français, ils font bien leur boulot, voilà, le slip français, ils expliquent sur leur Instagram des décisions importantes qui sont prises par la marque, ils expliquent comment ils les prennent. Je trouve que c'est un très bon modèle de discussion et d'échange et de transparence en direct avec ses clients, des décisions au sujet du recyclage par exemple, des emballages, de la marge, etc. Tout est expliqué face caméra sur Instagram. Je vous mets le lien direct si vous voulez vous inspirer, parce que je trouve que la tonalité elle est bonne. Et effectivement, cette transparence elle doit être pas juste sur je montre mes photos backstage, je parle de mon produit, je parle de mon offre, je parle aussi de ce qui coince. Et puis tu l'as dit, construire sa marque en public, ça permet de s'assurer que son offre elle soit alignée aussi avec les besoins de ses cibles. C'est important, hein, le modèle de construction en public qui permet au consommateur de faire un retour sur un produit, hein. C'est le principe de construction ou même à service avant même parfois sa commercialisation officielle.
Ouais, là il y a une exclue que le client aime avoir, c'est qu'il a avant tout le reste du monde un produit et il se sent privilégié par rapport à d'autres, et ce privilège, cette exclusivité, bah pareil, ça renforce encore une fois les liens qui va exister entre la marque et le consommateur. Là, tout ça pour dire, quand on rentre dans un point de vue un tout petit peu plus technique et économique, qu'en fait j'ai lu ça dans pas mal d'articles, c'est des adéquations produit marché, c'est-à-dire que on arrive avec une offre et en fait il faut l'ajuster avec la demande, voir si cette demande existe déjà sur le marché, voir s'il y a un marché pour ça. Et en fait, ce travail de co-construction, eh ben, il permet d'ajuster tout de suite dès le départ, avant même d'avoir lancé son entreprise vraiment, d'avoir sorti le premier produit de sa boîte, d'avoir un produit qui est ajusté à un certain public, à une offre, à une demande. Et ça, là j'en reviens à une vieille maraude qu'on a nous ici au Super Daily, c'est le conversationnel, parce que déclencher tout de suite du conversationnel sur les réseaux sociaux, c'est s'assurer d'avoir des retours, c'est s'assurer d'avoir un échange continuel avec ses clients. Et un bon travail de CM là, à ce niveau-là, bah, ça permet cette co-construction justement.
Ouais, exactement. exactement. Je trouve que la construction en public, hein, bah, ça permet de trouver, de s'assurer, de trouver le bon product market fit. C'est ce que tu disais, ce fameux product market fit, ce que tu serais tenté peut-être d'aller chercher sur des études de marché, des groupes de discussion pour recueillir des informations, etc. Une marque, elle peut aujourd'hui simplement poser la question et exposer ses enjeux à un public, présenter son produit en cours de développement, lorsqu'il est encore en cours de production, etc. Et là, les réseaux sociaux sont délicieux. Enfin, c'est vraiment l'endroit pour ça. Hein. Et une fois que la marque elle a collecté de la data, bah, elle peut améliorer aussi son produit en fil rouge, évidemment. Et c'est ce que fait très bien, par exemple, la marque Horace. Tu connais cette marque Horace, une marque de cosmétiques française pour les hommes?
J'en ai entendu parler.
Voilà, toi, tu n'utilises pas.
Non, j'utilise pas, mais je vois la marque. Ouais.
Eh bien, Horace, ils ont plein de tactiques super intéressantes. Allez voir ce qu'ils font, Horace, pareil. Jetez un coup d'œil sur leur compte Instagram. Ils ont plein de tactiques où ils sollicitent beaucoup leurs audiences en format story, notamment pour se nourrir d'insights, pour être sûr de pouvoir construire avec eux le product market fit parfait, le produit qui va vraiment satisfaire à leurs envies. Donc ça, je trouve ça très intéressant. Et puis, il faut le dire, construire en public, ça permet aussi de constituer une audience au plus tôt. Et on le sait, c'est un enjeu. C'est un enjeu que nous, on connaît bien parce qu'on accompagne des marques qui sont déjà bien installées, des marques qui sont historiques. Eh bien, parfois, elles ont plus de mal, elles, à construire des audiences que des jeunes marques qui se sont constituées.
C'est clair. Moi, si on est dans les exemples de marques, j'ai un autre exemple avec Asphalt Paris. Hein. Tu dois voir cette marque aujourd'hui qui est pas mal présente d'ailleurs en pub YouTube, beaucoup de pubs YouTube face caméra avec des explications sur leurs produits. Je tombais pas mal de fois dessus. Aujourd'hui, c'est une marque qui a 64 000 followers sur Instagram, 47 000 fans sur Facebook, donc c'est quand même assez costaud. Et vous allez tout de suite comprendre à quel point le processus de co-création il est important sur cette marque. C'est que je vous invite à aller là en ce moment sur leur site asphalt.com, j'ai mis le lien dans les notes. Vous tombez directement sur une pop-up qui arrive à l'entrée du site où la marque vous dit « bah non, ça ne nous fait pas plaisir de balancer une pop-up comme ça, mais on a quand même envie de vous demander votre avis sur quel genre de tennis en toile vous souhaiteriez. » Et là derrière, tu as un petit questionnaire de 4-5 questions qui te demande si tu as déjà porté des tennis en toile, si elles se sont usées vite, quels ont été le principal défaut. Et en fait, ils te posent tout de suite des questions là, sur ça et grâce à ce qu'ils accumulent ici, ils vont créer eux-mêmes leur tennis demain, sûrement pour l'été où on verra. Et c'est une marque qui a toujours fonctionné comme ça. Les créateurs de la marque, ils expliquent d'ailleurs hein, qu'ils ont d'abord essayé avec une autre marque de manière classique et ils sont un peu cassés les dents. Et ils sont après arrivés sur cette marque Asphalt. Ils l'ont créée en 2016. Et en fait, avant même de lancer le premier produit, ils ont commencé à envoyer plein de questionnaires pour essayer de récolter de l'info et créer justement une base de clients qui, avant même qu'ils aient sorti un produit, puissent leur expliquer clairement ce qu'ils ont envie de porter demain. Ils se sont dit, nous, on ne sait pas ce que... C'est ça encore la démarche avec de l'humilité dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'ils se sont dit plutôt qu'essayer de deviner ce que vous avez envie de porter demain, on va prendre les grandes tendances, on va vous poser des questions et comme ça on va savoir vous ce que vous voulez vraiment porter demain et on va le créer pour vous. Et du coup bah, c'est comme ça qu'ils ont commencé à lancer leur première fringue et aujourd'hui bah, ça cartonne et ils continuent parce que pareil ils auraient pu s'arrêter et se dire bah, c'est bon maintenant on a trouvé la solution, on n'a plus qu'à dérouler. Non, ils continuent à le faire, à se remettre en question, à poser des questions à leurs clients, à envoyer des questionnaires et à faire remonter de l'information. Et je trouve que c'est une marque qui est parfaitement construite dans ce modèle-là.
Qui s'est construite en public et du coup qui a constitué une audience très tôt dans son projet entrepreneurial. Je pense même que l'aventure entrepreneuriale, elle commence au moment de l'idée et c'est ce qu'ont très bien compris ces entrepreneurs-là, c'est-à-dire qu'ils racontent la construction de leur boîte. C'est un réservoir de création de contenu, c'est un réservoir pour nourrir leur premier marché, leur première prise de parole de marque sur les réseaux sociaux. Il y a des choses passionnantes hein, de ce côté-là. Un bon exemple, c'est 17h10. Hein, pareil, c'est un exemple dont on a déjà parlé dans le Super Daily il y a quelques temps parce qu'ils ont un podcast 17h10. 17h10, c'est une marque de prêt-à-porter pour femmes qui a eu la super idée de documenter en podcast l'intégralité du lancement de la marque. Pendant un an, eh bien, les deux fondatrices, elles ont raconté toutes les deux semaines l'avancée de leur projet avec tout ce qui était flou, tout ce qui était hésitant, tout ce qui était non professionnel, maintenant sans doute avec du recul, mais tout ce qui a créé aussi ce lien de sympathie, d'empathie et puis une vraie base d'audience solide parce que quand 17h10 a finalement sorti sa première collection, eh bien, ils avaient déjà plusieurs dizaines de milliers de personnes qui les suivaient sur Instagram. Ouais. Donc forcément, ils ont été soldats très, très rapidement. Je vous mets le lien vers le compte Instagram de 17h10 et puis aussi vers ce podcast. Si vous voulez aller voir la tonalité, ce que j'aime là-dedans, c'est que la tonalité, elle est très décomplexée. Elle est très, oui, ok, on est en train de construire un truc. Donc forcément, c'est work in progress. C'est un peu foireux. C'est pas très clair. C'est pas très lisible. C'est pas très professionnel. Et en même temps, c'est du génie de communication. C'est une manière parfaite pour construire une marque.
T'imagines le lien qu'elles ont créé pendant, allez, je sais pas quoi, un an et demi avant de lancer leur premier produit. Bah, pendant un an et demi, elles ont créé du lien avec, avec des personnes qui étaient susceptibles d'être leurs clientes. Elles ont mis de l'humain dedans, en plus, parce que, avec leur communication, elles ont montré, bah, que derrière la marque, derrière le vêtement que la personne à la fin va acheter au bout d'un an et demi. Bah, en fait, pendant un an et demi, il y a des gens qui se sont démenés, qui ont travaillé, qui ont bossé avec d'autres gens pour arriver à sortir ce produit-là. Et en fait, tout de suite, ça donne, même dans l'utilisation du produit, à la fin, quand tu l'achètes, ça te donne quand même une autre vision du produit que t'achètes quand tu sais et que tu connais les personnes qui ont travaillé derrière, plutôt que quand t'achètes le truc random au milieu d'un rayon et que il y a pas d'histoire. Je veux dire, là, il y a un lien qui est extrêmement fort.
Un autre exemple, hein, Atelier Particulier, marque française, pareil, qui en fait vend, commercialise des savoir-faire, des produits issus de gens qui ont des savoir-faire aux quatre coins de la France. C'est assez, vraiment très cool, hein. Atelier Particulier, je vous mets le lien vers leur Instagram. Allez voir leur Instagram, justement. Des stories, ils ont une stories qui s'appelle Tour de France où le patron, le Benjamin, un des fondateurs, Benjamin, explique pourquoi ils travaillent avec un tel, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant, pourquoi ils ont choisi de travailler avec tel fournisseur. Pareil, grosse transparence. Et puis, on n'est pas exclusivement là pour vendre le produit, on est là pour expliquer aussi ses choix d'entreprise, ses choix de marque. Je trouve ça assez passionnant. Et puis Benjamin Legour, qui est le fondateur, il a une prise de parole de marque aussi très intéressante sur son LinkedIn perso, parce qu'évidemment, dans ce genre de situation, quand tu construis en public, eh bien la marque, il faut qu'elle soit incarnée, par ses dirigeants, par ses fondateurs. Donc ça fait partie de l'équation. Je trouve, in fine de tout ça, il y a quelque chose à retenir. Nous qui accompagnons, comme je le disais tout à l'heure, des marques qui sont des marques déjà bien installées, des marques retail, des marques nationaux d'ores et déjà, qui ont déjà 15, 20 ans de boîte et qui ont un historique, un passif. Il y a beaucoup à apprendre de ces marques qui se construisent aujourd'hui, qui se construisent en public, et de voir comment on peut rapporter ça aussi, hein, dans notre communication, dans notre prise de parole sur les réseaux sociaux, et comment, du coup, tirer profit au max possible du social media pour nourrir son marketing.
Exactement, comme tu dis, il n'est pas trop tard, hein. Même quand on est une vieille marque centenaire, on peut encore se renouveler et on peut s'inspirer de ces nouvelles marques pour aujourd'hui co-créer sur des nouveaux produits, sur des nouveaux pans, même une nouvelle offre de son entreprise. Et il faut pas s'en passer du tout.
Est-ce qu'on s'est tout dit ?
Je pense qu'on s'est tout dit.
On pourrait dire beaucoup de choses encore.
Si vous avez des questions, comme vous le savez, vous pouvez venir nous les poser, hein, à Supernatif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous connaissez vous-même des marques qui ont été co-créées comme ça, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux sociaux. On est peut-être passé à côté, on n'en a peut-être pas parlé et ça vous a embêté. Alors venez nous en parler à Supernatif sur Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Donc, laissez-nous une petite note, un commentaire, on les lit tous, ça nous fait super plaisir. Et surtout, bah, parler du super délit autour de vous. Vous avez bien un pote CM que ça intéresse.
Merci à vous tous. On vous souhaite une très très belle journée et on vous donne rendez-vous dès demain. Salut tout le monde. Ciao.
Allez, ciao.